Bonjour Hugo, bonjour à tous. Le bracelet anti-rapprochement est désormais opérationnel en Deux-Sèvres. Sur décision de justice, il peut tenir à distance un individu potentiellement dangereux. Il y aura du changement cet été à la communauté de brigade de gendarmerie de Cerizay. Le lieutenant Favennec va partir, il aura en 4 ans marqué de son empreinte son passage sur le territoire. La Digital Academy prépare la rentrée étudiante à Thouars. La crise a sans doute fait sauter quelques verrous sur l'enseignement à distance. Nous vous ferons découvrir ensuite Faux ce qu'il faut, un groupe qui répète à Voulementin et qui vient de sortir un CD. Enfin, les frères Hanouna ont communiqué hier, ils ont annoncé des investissements supplémentaires pour les centres de formation et d'entraînement des Chamois-Niortais. Si vous habitez Niort, vous avez peut-être entendu une déflagration hier soir vers 23h30. Deux bouteilles de propane de 37 kilos ont explosé dans un bâtiment désaffecté rue de l'Auvergne. Il n'y a pas eu de blessés et la vingtaine de pompiers engagés a permis de limiter toute propagation. Le bracelet anti-rapprochement opérationnel en Deux-Sèvres, les violences aux personnes essentiellement faites aux femmes, sont en forte augmentation ces derniers mois. En 2020, les services de police ont enregistré des plaintes de 129 victimes, c'est 14% de plus par rapport à l'année précédente, 388 plaintes en zone de gendarmerie, plus 34%. Mise en place en Espagne, puis testée dans plusieurs départements de France comme la Charente, ce dispositif est à ce jour le plus efficace pour assurer la protection des personnes victimes de violences. En effet, quand un juge estime qu'il y a un risque important de récidive, il peut, par le biais de ce bracelet anti-rapprochement, interdire aux mises en cause tout contact avec sa victime, mais aussi instaurer l'interdiction de paraître dans certains lieux qu'elle fréquente dans un rayon de 1 à 10 km. Julien Wattebled est le procureur de la République du tribunal de Niort.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation va poser un bracelet électronique à l'auteur qui va le géolocaliser en temps réel. Et si l'auteur pénètre dans la zone de préalerte, on va avoir un déclenchement d'une alerte. Dans ce cas-là, on a un téléopérateur qui va contacter le mis en cause en lui disant qu'il doit quitter cette zone. Et s'il n'obtempère pas, la victime va être immédiatement prévenue pour qu'elle puisse se mettre en sécurité. Et les services de police ou de gendarmerie vont aussi être alertés de manière à ce qu'ils puissent venir sur place pour mettre en sécurité la victime, s'assurer qu'elle est vraiment protégée, en sécurité, et surtout pour interpeller l'auteur. Parallèlement, on a aussi la victime qui est dotée d'un terminal, un boîtier, qui lui permet à elle de contacter les secours, qui lui permet d'être prévenue quand l'auteur viole les zones de préalerte ou d'alerte, et qui permet d'être géolocalisée. Donc on a deux équipements qui sont donnés, un à l'auteur, avec un bracelet électronique, et un terminal qui est donné à la victime. On a plusieurs dispositifs, le bracelet anti-rapprochement c'est le dispositif le plus abouti, mais on a aussi les téléphones grand danger par exemple, et ça on en a dans le département, c'est 7 fois plus que l'année dernière, et c'est aussi un outil qui nécessite l'accord de la victime, mais c'est aussi un outil de protection de cette victime.
Julien Wattebled, le procureur de la République du tribunal de Niort, au micro de Patrice Bémanangy à propos du bracelet anti-rapprochement. La passation s'organise sur la communauté de brigade de gendarmerie de Cerizay. Le lieutenant Favennec est en effet sur le départ, promu capitaine. Il sera à partir du 1er août en poste dans le Maine-et-Loire, commandant en second de la compagnie départementale de Segré. Le lieutenant Favennec, qui sera resté 4 ans à Cerizay, dirigeant aussi les brigades de Mauléon et Nueil-les-Aubiers, soit une petite trentaine de gendarmes, aura marqué de son empreinte cette période en cohésion avec le lieutenant-colonel Weber, commandant de la compagnie. Lui aussi, en partance, ils se sont évertués à rapprocher le gendarme de la population, jouant sur la proximité et la communication directe et indirecte.
On a mis au premier rang de notre engagement ce contact avec la population. Donc le gendarme, voilà, on l'a amené à descendre de sa voiture, à faire de la patrouille pédestre, à rentrer en contact dans les magasins, à monter sur un VTT, aller dans les parcs. Tout ça pour dire à la population, nous sommes à votre contact. D'accord, nous ne sommes pas juste l'agent verbalisateur sur le bord de la route, on a bien d'autres préoccupations. Nous voir sur le terrain, tenir un territoire, c'est aussi un effet recherché quand on est aux manettes d'une unité comme la communauté de brigade.
En 4 ans, sur le territoire du Bocage-Bressivray, quelle a été votre plus grande fierté, mon lieutenant ?
La solidarité que j'ai pu voir dans mes rangs. et aussi ce lien avec les élus et aussi les voisins référents qui sont de la participation citoyenne.
Le successeur annoncé du lieutenant Favennec sur la communauté de brigade de gendarmerie de Cerisay a passé 3 semaines avec son prédécesseur, promu lieutenant, après avoir passé 6 ans et demi en brigade en Haute-Normandie. Thibault Leparc, 32 ans, marié, 3 enfants, semble vouloir s'inscrire dans ce qui a été construit ces dernières années.
Connecter encore plus le gendarme au territoire et à la population. Le gendarme est abordable aujourd'hui. Il faut s'affranchir des pratiques passées. Il faut vraiment discuter, se renseigner.
Les lieutenants Leparc et Favennec étaient au micro de Patrice Bémanangy. C'est toujours la même histoire entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide dans le dossier des bassines. 2 lectures pour un même jugement du tribunal administratif qui donne son feu vert à la construction de 7 des 16 bassines, ce qui indique également qu'il retoque 9 retenues de substitution destinées à l'irrigation, retoquées car surdimensionnées. Les premières bassines pourraient être construites à l'automne. Alors que Parcoursup délivre ses premières réponses, la Digital Academy prépare la rentrée étudiante. Suivre des études supérieures depuis son ordinateur, c'est la solution proposée par la Digital Academy à Thouars, initiée par la communauté du Thouarsais. S'est rodée l'an dernier au ralenti sous Covid, se limitant à l'accueil d'une dizaine de lycéens préparant le bac et à 2 étudiants post-bac. Après Marie Bertin, c'est Maxime Marchais qui assure l'encadrement. Le nouveau coach détaille des avantages de l'enseignement à distance au micro-colline de Dominique Hérault.
On était sur une vision assez classique de l'enseignement supérieur qui devait être physique et de manière assez frontale. Le Covid nous a montré tout l'intérêt du téléenseignement et le fait d'avoir une structure d'accueil qui leur permet la continuité de leur enseignement. L'objectif est simple sur le plan financier, permettre aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller dans les grandes villes pour étudier sur des grosses universités du type de Tours ou Angers par exemple, de leur permettre de faire leurs études à Thouars dans un lieu qui est destiné à ça et qui en plus ne coûte pas cher. Il y a vraiment un avantage économique. Et on se passe aussi des frais mensuels qui sont liés au loyer, à la nourriture, aux déplacements, aux loisirs, et ainsi de suite. Et il y a aussi un intérêt de réussite, puisqu'on va créer sur des petites structures un véritable esprit campus dans lequel on mêle tous les étudiants issus de cursus différents. On va avoir une certaine ouverture d'esprit, puisqu'on ne va pas rester enfermé avec des étudiants issus uniquement de notre cursus. Le territoire va fortement y gagner, puisqu'on va former des étudiants qui n'auront pu fuir les campagnes, et surtout on va former des gens qui vont être diplômés, qui vont avoir des métiers à haute valeur ajoutée, des postes à responsabilité. Et c'est là tout l'intérêt de la Digital Academy et de la volonté de la communauté de communes du Thouarsais qui veut garder à la fois sa jeunesse et en plus l'accompagner dans un esprit d'intégration professionnelle.
Le défi est donc relevé pour Maxime Marchais, titulaire d'un master d'histoire, mais aussi rugbyman formé au Stade Rochelet qui s'apprête à rentrer en mêlée aux côtés des étudiants dès à présent. Au moment des inscriptions, le catalogue proposé ouvre sur 3000 formations pour les 17-26 ans pour une inscription à 50 euros au lieu des 800 demandés sur un cursus classique. La formation possible pour une 12aine d'étudiants s'effectuera au lycée Jean Moulin de Thouars. En attendant, la mise en service de la station T près de la gare. Un téléphone est disponible pour des informations précises, le 07 88 55 04 29. Sujet réalisé par notre correspondant en Thouarsais, Dominique Hérault. Les artistes sont nombreux à vouloir retrouver la scène et leur marque à l'image du groupe Faux Skifo, originaire du Bocage et de Vendée. Le groupe a sorti il y a une quinzaine de jours un CD de 6 titres intitulé « Blues en ciré » édité à 200 exemplaires. Christian Lavaux, auteur-compositeur mais aussi guitariste et pianiste, Dodo, le chanteur, Didier, le batteur et Philippe, le bassiste, ont osé le ciré jaune sur la pochette de leur tout premier CD. Freinés par la crise sanitaire, c'est avec impatience que ces 4 retraités attendent de pouvoir enfin se produire sur scène. Christian Lavaux a accueilli Camille Lepeintre à Voulmentin, chez lui, un domicile qui sert aussi de lieu de répétition pour le groupe.
On se connaît depuis longtemps et puis moi j'avais envie de former ce petit groupe de blues parce que je fais des chansons et puis j'aime bien le blues. Bah, ils ont bien accepté de partager cette petite aventure. Et puis on a commencé il y a 1 an. On a été un petit peu en décousu par le Covid, quoi, par tout ce qui s'est passé. On a réussi quand même à faire un petit CD, 6 titres, que j'aime bien et ce qu'on partage avec, avec mes copains. C'est Bachung, c'est Dutron, c'est Jonas, c'est pas trop se prendre au sérieux. Voilà, le blues, c'est une musique de copains, je pense, qui raconte un peu la vie. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir se produire dans des bars, dans des concerts locaux. On va essayer de trouver des dates ouais, pour jouer notre musique. Dès qu'on pourra jouer, on ira jouer.
Emma, Emma. Dans les hostos, des marins sur les bateaux, faut ce qu'il faut.
Faut ce qu'il faut, titre phare du groupe du même nom emmené par le Boquin Christian Lavaux. La formation est déjà en préparation d'un autre CD prévu pour septembre-octobre. D'ici là, Blues en ciré est actuellement sur toutes les plateformes de streaming. Si vous voulez plus d'informations concernant la vente du CD, vous pouvez joindre Christian Lavaux au 06 24 67 29 48. Dans l'actualité sportive, les Chamois se projettent sur la suite. Le directeur général du club, Michael Hanouna, et son frère Ethan, le président, se sont exprimés hier après-midi. Après une fin de saison qui s'est soldée par leur maintien en Ligue 2 après le barrage face à Villefranche, un épisode riche en émotions, mais aussi en enseignements pour Michael Hanouna.
Ça a permis à tout le monde de vraiment exprimer son amour ou son désamour, mais plus globalement son amour pour le club. Ses valeurs de loyauté envers les Chamois, c'est ce qui a permis d'aller arracher le maintien la dernière journée. Et cette expérience est très très riche, très enrichissante pour la suite.
Mais le football, s'il procure des émotions, reste une affaire de moyens. Et les dirigeants ont indiqué hier lors de cette conférence de presse que le dossier du centre de formation et du centre d'entraînement qui seront situés sur le stade municipal de l'avenue de la Rochelle avançait bien, avec un investissement de 2 700 000 euros, soit le triple de ce qui avait été annoncé initialement.
On s'est battu avec Ethan et d'autres pour absolument conserver l'agrément du centre de formation en promettant des aménagements dans les années à venir. En fait, dans l'effectif, on conservera toujours une place pour les joueurs du centre de formation. C'est au cœur de notre projet.
On a eu le permis de construire. Voilà. Donc, les travaux vont bientôt commencer. Et que donc, sur le stade municipal, nous aurons toute la partie football, à la fois professionnelle et centre de formation. Donc, aujourd'hui, on a quasiment triplé l'investissement qui était envisagé. Et donc, c'est toute la concertation qu'on a eue cette année avec l'agglomération et puis la mairie. Et en même temps, la mairie, elle, a également travaillé pour offrir une solution d'hébergement alternative à nos jeunes, qui nous permettra de les avoir dans des conditions excellentes, aussi bien pour la partie scolaire que pour la partie hébergement.
Les travaux d'une durée de près de 9 mois devraient bientôt débuter. Le déplacement du centre de formation libérera de la place au stade René Gaillard, levant ainsi un frein à son réaménagement. Les joueurs, eux, devraient reprendre les entraînements le 21 juin. Après quelques semaines de vacances, l'effectif sera renouvelé en profondeur, vraisemblablement, avec pas mal de fins de contrat, mais n'attendez pas de noms ronflants dans la case recrutement. Les Chamois, avec leur budget restreint, vont devoir piocher intelligemment dans les divisions inférieures. Le Tour des Deux-Sèvres cycliste aura lieu du 10 au 14 juillet et s'élancera de Cheffois en Vendée, siège de l'un des partenaires du Tour, annonce faite hier soir par les organisateurs du Tour 79. La première étape assez sélective dans le pays de la Châtaigneraie s'achèvera à la Chapelle Tireuil, en Deux-Sèvres. Le lendemain, place au chrono par équipe à Bressuire. Il y aura aussi un contre-la-montre individuel le 14 juillet autour de Brion. 12 équipes, dont 4 étrangères, seront alignées.